cours de philosophie critique par le père Philippe Saint-Chaudard, le 20 janvier 1988.
Ce serait intéressant, vous voyez, de critiquer au plan philosophique cette première preuve de Saint-Augustin. C'est notre grand-père, mais comme il est un saint, il accepte d'être critiqué. En toute charité fraternelle. Parce que on a eu saint Thomas. Et c'est ces preuves de saint Augustin qu'on appelle ordinairement la preuve par la vérité. Est-ce qu'on peut prouver Dieu par la vérité? C'est un problème extrêmement intéressant, parce que de fait, c'est l'âme de fond, c'est le problème de l'intériorité. Saint-Père se pose la question dans son dialogue avec Fayard, dans son dialogue paru chez Fayard avec Froissart. Il dit qu'il y a deux voies, la voie de l'intériorité et la voie de l'extériorité. Il les avait dit, je préfère la voie de l'intériorité. Il voit très bien ce qu'il veut dire. Si on poussait jusqu'au bout, on dirait attention. Bien comprendre que c'est vrai, il y a toujours les deux voies, intériorité, extériorité. Et on verra ça avec saint Thomas. Et la voie de la vérité est-elle une voie d'intériorité ou d'extériorité? C'est une voie d'intériorité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est ce que nous allons nous poser maintenant. Vous voyez, la critique de la vérité va nous permettre de comprendre ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de moins juste dans cette voie de saint Augustin. Parce que je crois qu'on est arrivé à ce problème-là. On a vu comment le jugement d'existence dépassait l'aspect quantitatif et que ce que l'intelligence recevait en premier lieu, cadit in intellectus, ens, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. Et donc, ce que l'intelligence reçoit en premier lieu, c'est ce qui est. L'intelligence est impressionnée, en comprenant bien, entre guillemets, impressionnée en premier lieu par ce qui est. Elle est en attente de ce qui est, en premier lieu, plus que de l'acuité. L'acuité, elle doit passer par là. Condition sine qua non, pour connaître. Mais ce n'est pas l'appétit premier de l'intelligence. L'appétit premier de l'intelligence, c'est découvrir ce qui est. Hence. Ça, c'est capital de comprendre ça. Parce que la scolastique décadente risque de considérer que ce que l'intelligence désire en premier lieu, c'est l'acuité. Parce que on fera de l'élément, on en fera comme un principe. Et on dira que l'intelligence est d'abord l'appréhension. Oubliant que l'appréhension est un élément du jugement. Et que ce n'est qu'à partir du parfait qu'on peut juger d'imparfait. Tandis que là, on fait de l'imparfait le parfait. L'imparfait, c'est l'appréhension, vous comprenez bien. Donc, il faut bien comprendre comment l'intelligence est saisie par ce qui est. Elle est déterminée par ce qui est. Et ce qui est comme tel, c'est le verbe être, et qui détermine l'intelligence, qui l'attire. Et le « ceci est » est à l'intérieur de l'être. À l'intérieur de ce qui est. Alors nous avions vu qu'à partir de là, l'intelligence dans le jugement peut adhérer ou ne pas adhérer. Double mouvement d'intelligence. Affirmation et négation. Alors essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que cette adhésion. Parce que facilement, on définira le jugement par une adhésion. Et on dira, l'appréhension, c'est une assimilation, et le jugement, une adhésion. C'est juste, mais il faut essayer de bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette adhésion d'intelligence. Quand vous dites oui, vous le dites constamment, ça. Oui, c'est entendu. Vous adhérez. Ah non, non, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Vous niez. Qu'est-ce que vous faites quand vous affirmez? Qu'est-ce que vous niez? Or, de fait, l'activité judicative de l'intelligence implique les deux. Affirmation et négation. Je ne peux pas le nier, c'est courant, ça. Durant ma journée, je dis combien de oui et je dis combien de non. Il faudrait que vous ayez un petit cahier sur vous. Chaque fois que vous dites oui, un bon point. Chaque fois que vous dites non, un autre point négatif. Et vous verriez à la fin de la journée si vous aviez dit plus de oui que de non. Très, très intéressant. Examen de conscience philosophique. Voir comment se comporte votre intelligence. Est-ce que vous niez plus que ce que vous affirmez? C'est-à-dire, ça dépend dans quel contexte. C'est bien évident, ça dépend dans quel contexte. Il y a dans certains contextes où on nie toute la journée. Il y a d'autres contextes où on dit oui toute la journée. Des contextes positifs et des contextes négatifs. Alors prenons le contexte positif. Je dis oui. Qu'est-ce que c'est que cette adhésion? Ceci est, en affirmant dire ceci est, je dis oui. Et là vous posez la question, mais pourquoi vous dites ceci est? Parce que c'est comme ça dans la réalité. C'est ce que vous dites tout de suite. C'est parce que c'est comme ça dans la réalité. C'est quand même curieux. Hein, vous êtes capable de dire ça. Pourquoi vous dites cette table existe? Pourquoi vous dites cette table existe? Vous n'allez pas répéter parce que je dis que cette table existe. Il y a des gens qui disent ça. Je vous affirme cette table existe. Mais pourquoi le dites-vous? Parce que je l'affirme. Votre raisonnement à ce moment-là, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes juge et partie. Tandis que si vous dites, j'affirme que cette table existe, parce que cette table existe, c'est pour ça que j'affirme. Ah, à ce moment-là, vous n'êtes plus juge. Vous renvoyez à la réalité. C'est très curieux. Et ça, c'est le langage courant, c'est comme ça que vous faites, hein. Vous renvoyez à la réalité. Ça prouve que l'intelligence est capable de juger, j'allais presque dire, la valeur ou la vérité de ce qu'elle dit en fonction de la réalité. Ceci est, j'affirme ceci est parce que cette table existe. Donc vous pouvez arriver à relativiser ce que vous dites en fonction de ce qui est. Mais ça, c'est capital, hein, de comprendre ça. C'est là le réalisme. Le réalisme, il est là. Pour qu'il y ait réalisme, il faut que l'intelligence soit capable de se dépasser. Tant que l'intelligence ne se dépasse pas, il n'y a pas de réalisme. Dans l'assimilation, il n'y a pas de réalisme. J'assimile. Je dis c'est bon ou mauvais. J'assimile. Tandis que quand vous dites oui, ceci, je vous affirme que ce que je dis là, c'est vrai. Et vous dites pourquoi c'est vrai? Parce que c'est conforme à la réalité. Ce que je dis est conforme à la réalité. Mais est-ce que vous la connaissez, la réalité? Et oui, puisque j'affirme que ceci est. Et donc je connais la réalité. Mais ce que vous dites en disant ceci est, ce n'est pas la réalité, c'est vous qui le dites. Oui, mais je le dis parce que la réalité qui existe a déterminé ma connaissance. Il faut dialoguer de cette manière-là pour comprendre ce dépassement que nous pouvons faire à l'intérieur même de notre connaissance pour voir que notre connaissance est capable d'atteindre quelque chose qui est au-delà de ma propre connaissance. Mais comme c'est curieux, ça. Alors il faut analyser ça, il faut essayer au point de vue critique de comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez jamais à justifier que mon intelligence est capable de vérité. De dire vrai. Dire vrai. Qu'est-ce que ça veut dire de dire vrai? Ou au contraire de dire faux. Il y a des gens qui confondent constamment le mensonge et la vérité. À un certain niveau de développement psychologique ou de maladie mentale, on ne sait plus discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça, c'est constant. Quelqu'un de très fatigué n'arrive plus à discerner ce qui est vrai et faux. Patauge. Dans l'entre-deux. D'un côté, il tient la réalité, de l'autre côté, il tient le sujet qui affirme. Alors, comprenons. Quand l'intelligence affirme ceci est, l'intelligence forme au-dedans d'elle-même un certain verbe, un certain concept, analogue au concept de l'appréhension. La preuve est simple, c'est que je peux dire, je peux énoncer cette affirmation, ceci est. Je l'énonce. Si je l'énonce, c'est que je la conçois. Puisque je ne peux énoncer que ce que je conçois. Je ne peux dire que ce que je conçois. Vous voyez, la naissance du legein, retrouvons notre legein tout à l'heure. Ici, on va l'analyser. Le legein, le dire. L'affirmation. Je suis capable de dire, mon legein, c'est ceci est. Si je dis ceci est, quelle est la source de ce legein? D'où ça vient, ce legein? Il implique la pensée. À la pensée. Le legein exprime ce que je pense. Ce que je pense ici, je le pense dans une affirmation. Ceci est une affirmation complexe. Verbe et nom. Alors, comme ce legein est complexe, il implique le verbe et le nom. Il va exprimer ce concept intérieur produit dans l'acte même de jugement, ce concept intérieur complexe qui unit le nom et le verbe, qui unit les deux. Ceci est. Les deux sont liés. Il y a donc un concept intérieur à tout jugement. Et que ce concept intérieur n'est pas simple, il est complexe, et on l'appelle l'énonciation. Donc il y a un verbe de la seconde période, et un verbe du jugement, disons du jugement, qui est complexe. Qui implique toujours au moins une dualité. Ceci est. Si je ne dis que ceci, il n'y a pas de jugement. Si je dis est, ça n'a pas de jugement. C'est en unissant les deux, la complexité dans l'unité, que se produit le jugement. Donc tout jugement va impliquer un concept, un verbe intérieur complexe. Et ceci, je le prends, voyez bien au point de vue critique, je le prends à partir du dire, ceci est. Je ne peux énoncer ceci que si je le pense. C'est sûr, parce que ça vient de moi, c'est moi qui dis ça. Je suis source de ceci est. Et ça, c'est aussi très important. La source de l'affirmation, c'est l'homme. C'est l'homme pensant. Et quand ce n'est pas l'homme pensant, c'est l'homme qui répète. Je peux très bien répéter. Il suffit qu'il y en ait un qui ait pensé avant moi. Et moi, je me contente de répéter. Ça arrive souvent. En répétant, est-ce que je pense? Non, je répète simplement. Et je peux très bien répéter sans penser. Il y a des quantités de gens qui répètent sans penser. Alors, on répète au niveau du legein. Mais il faut bien que ce legein premier ait un homme qui a pensé. Voyez, entre les deux, sa fameuse parole de Platon, est-ce qu'on progresse en répétant les noms ou est-ce qu'on progresse en pensant? Voyez, quand vous répétez, vous mémorisez. Et mémoriser n'est pas toujours penser. Pour passer des examens, il suffit de mémoriser. Mais si on veut progresser, il faut penser. Donc le legein a sa source dans l'homme pensant, dans l'homme affirmant, ou dans l'homme niant. Puisqu'il y a affirmation et négation. Et le fruit de cette affirmation ou de cette négation, du ceci est, c'est ce qu'on appelle l'énonciation, concept intérieur, concept complexe, impliquant toujours au moins deux, le verbe et le nom. Donc ça, vous arrivez, je crois, à saisir. Et voyez, cette analyse se fait grâce à l'analyse précédente de l'appréhension. Dans l'appréhension, j'ai vu la naissance du concept. Ici, je vois comment, à cause du legein, à cause du dire, je dois poser une pensée. Je remonte du dire à la pensée, puisque je suis le fruit de ce que je vous dis. Je vous parle maintenant. Je peux très bien ne pas penser à ce que je dis. Ça peut arriver. Mais au fond, au bout d'un certain temps, vous vous apercevrez. Il y a accumulation de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évident, quand on lit certaines poésies, quelquefois, aujourd'hui, on se dit accumulation de mots. Qu'est-ce qu'il y a comme pensée derrière? Il y a une sonorité des mots. C'est peut-être ça, la pensée. Beau rythme, rien du tout comme penser. S'il arrive à penser, si je veux penser. Je disais l'autre jour un passage de Valérie sur l'inspiration. C'était très beau, c'est très beau. C'est du Valérie. Et quand on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est plus très bien. Ça arrive, ça. Donc il n'y a pas beaucoup de. Le legein peut être très beau, très harmonieux, merveilleuse, splendeur de la forme qui cache la pensée. Et si je lis Aristote, ah, il y a une pensée derrière. Les catégories, tant que je ne les ai pas pensées, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais quand je les pense, je découvre. Je passe du legein à la pensée. Et la pensée se fait toujours en appliquant un concept. Puisqu'il y a l'appréhension qui a un concept. Et donc, nécessairement, l'affirmation va impliquer une énonciation, c'est-à-dire un concept complexe qui implique au moins deux aspects. Et vous voyez très bien que le concept du jugement n'est pas et ne peut pas être l'addition des concepts de l'appréhension. Contrairement à ce que dit Occam. Selon l'appréhension, j'appréhende chat. J'appréhende animal. Est-ce que j'appréhende le verbe? J'appréhende les quiddités, et souvent d'une manière confuse. Je n'appréhende pas le verbe. Le verbe est au-delà de la quiddité. Ceci existe. Pierre marche. Le verbe est au-delà de la quiddité. Il y a autre chose. Et le verbe n'est saisi que dans le jugement, ce que nous avons vu. C'est par le verbe que je conçois ce que j'exprime dans une affirmation. Donc, il faut bien comprendre que le verbe, l'énonciation, ce verbe complexe, ce concept complexe du jugement, ne peut pas se ramener à une accumulation d'appréhension. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, il est irréductible. Cette énonciation complexe n'est pas et ne peut pas être une addition de concepts simples. Addition de concepts simples. Il y a quelque chose de nouveau et de sui generis. Ce concept, je ne m'en aperçois, je ne peux le connaître qu'en réfléchissant, en critiquant mon affirmation, en critiquant le ceci est, en critiquant cette manière de dire. Et je conçois à ce moment-là qu'il y a nécessairement un concept qui est au-dedans de moi-même. Le concept, qu'est-ce qu'il est? Nous l'avons dit à propos d'appréhension. C'est une forme intentionnelle. Eidos. C'est une forme intentionnelle. Cette forme intentionnelle, elle existe dans ma pensée. Mais elle n'est pas ma pensée. Elle est le fruit de ma pensée. Ma pensée est plus que cette forme intentionnelle. Je ne peux pas mettre adéquation entre les deux. Le jugement est une opération vitale de l'intelligence, dont le fruit est le concept complexe, qui est cette forme intentionnelle. Donc, quand je dis « ceci est », je peux tout de suite comprendre que où je réfléchis sur le « ceci est » pour voir comment est composé le « ceci est », et je vois que le « ceci est » dans mon affirmation implique l'énonciation. C'est le « comment » de cette affirmation « ceci est ». Comment le ceci est existe-t-il? Il n'existe qu'à travers un concept. Et je peux aussi regarder la finalité de cette affirmation ceci est. Quelle est la signification profonde du ceci est? C'est sa finalité. Ceci indique une réalité qui existe. Le ceci est indique une réalité qui existe. Comme quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Le voici l'agneau de Dieu indique une réalité qui n'est pas la forme intentionnelle par laquelle Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. C'est capital de comprendre ça. Hein? Il y a donc dans la pensée quelque chose qui est au-delà de l'intentionnalité du concept. Ramener la pensée au concept, c'est ce qu'on appelle le conceptualisme. Le conceptualisme, c'est ramener la pensée au concept. Et ramener la pensée au concept, c'est nécessairement s'interdire de rejoindre le réel. Et vous, vous regardez alors à ce moment-là le concept comme la chose la plus précieuse de la pensée. Et regardez le concept comme la chose la plus précieuse de la pensée, c'est nécessairement faire que la pensée ne peut plus être ce qu'elle doit être. Parce que je pense pour connaître le réel. Ça, c'est la finalité même de la pensée. C'est pour adhérer au réel, pour le connaître que je pense. Et j'essaie de penser le mieux possible pour être le plus proche possible de ce réel. Donc, si je ne regarde que la forme intentionnelle de ma pensée, je m'enferme subjectivement dans ma propre activité. Et je ne vois pas le sens profond de cette activité. Et la finalité propre de cette finalité, de cette activité, qui est de connaître autre chose que mon concept, qui est de connaître le réel. J'espère que vous voyez ça. Et c'est là où vous pouvez seulement justifier ce que c'est que le réalisme. C'est pour ça que c'est si important. Mon intelligence en affirmant va plus loin que ce dont elle se sert pour affirmer le concept. Mon intelligence dépasse le concept tout en s'en servant. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Le concept n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. La fin, c'est la réalité connue. Et le concept est ce par quoi je connais cette réalité. C'est pour ça que je ne peux saisir le concept que dans une attitude réflexive et critique, où je saisis tout de suite la différence qui existe entre ce qui est affirmé et la manière dont je l'affirme. Ce qui est affirmé, c'est le réel existant. La manière dont j'affirme, c'est mon concept. Alors une fois que je comprends ça, je comprends que ma manière d'affirmer, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas pour ça que je connais. Je connais pour connaître la réalité autre que moi. Et donc me dépasser par rapport à la forme intentionnelle. Connaître le réel tel qu'il est. Et c'est le propre de l'intelligence de pouvoir connaître l'être tel qu'il est. Et c'est pour ça quand je dis primo cadit intellectus ens, vous voyez, comme c'est délicat, est-ce que c'est la forme intentionnelle par laquelle je connais ens ou est-ce que c'est ens lui-même? Pris objectivement. C'est évidemment l'ens lui-même connu objectivement. Alors, une fois que j'ai compris ça, c'est assez subtil, c'est pas commode, mais faut bien passer par la petite porte, hein. Saisir ce que mon intelligence est capable de produire, ce que mon intelligence est capable d'atteindre. La signification de l'énonciation et ce qu'est l'énonciation en elle-même. Elle est une forme intentionnelle. Quelle est sa signification? C'est la réalité. Quand j'atteins le réel, ceci est, et que j'atteins ce réel, mon intelligence adhère à ce réel. Elle ne l'assimile pas. Elle y adhère grâce à cette forme intentionnelle. Et l'intelligence, en adhérant à ce réel, est capable de comprendre si ce qu'elle dit de ce réel est conforme à la réalité. Et en affirmant que ce qu'elle dit est conforme à la réalité, l'intelligence peut à ce moment-là dire ce que je dis est vrai, ce que je dis est faux. Et la lucidité de l'intelligence va jusque-là. Et en disant ce que je dis est vrai, l'intelligence reconnaît dans le jugement que sa forme intentionnelle est bien mesurée par le réel. Et qu'elle est relative au réel. Et qu'elle dépend du réel. Et que le réel est la mesure de sa forme intentionnelle. Et l'adéquation de cette forme intentionnelle avec le réel, c'est la vérité. Il y a un concept complexe, pas simple. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un concept de être? Alors, comprenons bien. Il y a un concept de être dans la réduplication que je fais sur être, infinitif. Est-ce qu'il y a un concept de est? Dans la réduplication, oui, mais pas directement. Là, c'est tout le point de vue des concepts des transcendantaux et de l'être. Je n'ai pas une connaissance quiditative. La connaissance quiditative, c'est la plus simple, elle est générique. Je n'ai pas une connaissance quiditative. Mais j'ai une certaine connaissance de la notion analogique, qui est d'abord connue dans un jugement. C'est complexe, c'est pas facile, et facilement on tombe dans une vision univoque. Hein. Et vous avez ça, si vous essayez de comprendre. Vous avez le premier élément. Connaissance quiditative. Les 10 prédicaments. Deuxièmement, jugement affirmatif. Le plus simple, ceci est. Troisièmement, réflexion sur mon jugement affirmatif, puisque l'énonciation est complexe, je suis en face d'un verbe complexe, ceci est. Je peux réfléchir sur le caractère propre de est. Je formalise est et j'aboutis au concept d'être. Ce concept d'être n'est pas une connaissance quantitative de être. C'est une connaissance de la ratio entis. Quatrièmement, jugement négatif. Ceci n'est pas. Connaissance de la négation. Oui, ceci n'est pas. Alors, cinquièmement, cette négation réclame un être de raison. Vous voyez? Et c'est du, j'allais presque dire, c'est du surplace. Parce que c'est le propre de l'esprit. L'esprit n'est pas dans l'extension, n'est pas dans la juxtaposition. Donc, chaque fois que je progresse, j'ai nécessairement une connaissance d'être. l'assimilation de la réalité plus parfaite. C'est pour ça qu'il y a deux moments, c'est ça qui est très délicat. Ce premier moment et ce second moment. Et là, j'ai saisi ratio et là, quidité. Vous vous souvenez, on avait vu une fois la différence entre quidité et ratio. Alors ici, vous voyez bien les deux moments. Je ne peux saisir la ratio qu'à travers le jugement, tandis que je saisis la quidité comme un élément du jugement. Ce n'est pas la même chose. Et la ratio, c'est justement pour quelque chose qui n'est pas la quidité. C'est la saisie analogique. Ici, je suis devant l'univoque. Ici, je suis devant l'analogique. C'est important de saisir ces deux moments et de voir que ces deux moments sont, dans la vie de mon intelligence, toujours parallèles. Dans ma vie d'intelligence, je ne pense pas à ça, je dis pas changement de vitesse, on est. Ça se fait automatiquement, c'est des changements de vitesse automatiques, pas besoin d'y penser. Mais vous avez le droit d'y réfléchir, parce que le bruit du moteur n'est pas le même. Alors vous avez le droit d'y réfléchir, premier. Ça, évidemment, il faut avoir un peu d'ouïe métaphysique, un peu d'ouïe critique. Premier moment, deuxième moment, troisième moment, quatrième moment. Vous voyez qu'on continue, hein. C'est déjà bien d'avoir ces moments-là. Alors, vous voyez comment apparaît la vérité. La vérité qualifie mon jugement et ne peut s'expliciter qu'en réfléchissant sur le rapport qui existe entre ce que j'énonce et la réalité existante.